La sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Mel et Max.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, Max. Beaucoup de gens ont interagi avec nous hier sur le live. J'ai pris des notes au sujet des questions qui ont été posées et c'est quelque chose dont on va vous partager au courant de la semaine prochaine avec Dr Paul Simard, entre autres.
Oui, il y a eu beaucoup d'interrogations qui ont été soulevées.
Vraiment?
Marc Gervais, quel personnage intéressant.
Oh, un botteur de fesses, hein?
Un botteur de fesses, oui.
Arrêtez de baiser pour baiser, c'est ce qu'il
nous
a dit hier.
Exactement. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'hyper inspirant, qui dit les vraies affaires. Et vraiment, donc, énormément de gens ont posé des questions par rapport à lui. Donc, vous pouvez nous écrire aussi par courriel, lasexploratrice@commercialradiox.com pour avoir plus d'informations. Ou même via l'extrait, hein, je crois, en rediffusion, vous pouvez avoir l'information sur ses conférences à venir.
Exactement.
Max, ce soir, on a deux invités hyper intéressants. Une de nos invitées, en fait, ce soir, est déjà venue à quelques reprises. On a manqué de temps chaque fois qu'elle est venue. Et elle nous présente quelqu'un ce soir. Donc, on a en notre compagnie Jen Gaudreau, détective privée, et maître Fabrizio Mancuso, avocat en droit de la famille. Bonsoir, vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonjour. Maître Mancuso, je suis très heureuse, en fait, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'ailleurs, Jennifer, pour la présentation.
Ça fait plaisir.
Puisque ça tombe bien, en fait, il y a le projet de loi 56 qui est de la réforme, la loi portant sur les droits de la famille et instituant le régime d'union parentale, c'est-à-dire qu'à compter de 2020, des naissances de 2025, si je ne me trompe, les conjoints de fait auront à séparer comme... les gens mariés, finalement, le patrimoine, les acquis et tout ça. Est-ce que, Maître Mancuso, vous pourriez peut-être nous en parler un petit peu? Le sujet d'aujourd'hui était surtout au niveau de l'aliénation parentale et les besoins, en fait, des familles qui se séparent, qui veulent obtenir les services de détective privé et d'un avocat en droit des affaires. Mais j'aimerais quand même qu'on aborde ce sujet-là, puisque c'est quand même d'actualité, là, c'est sorti aujourd'hui. Donc, qu'auriez-vous à nous dire par rapport à cette réforme-là, la différence avec... avant que ce soit adopté, finalement?
Oui, certainement. Donc, c'est des très bonnes nouvelles, à mon avis. C'est quelque chose qui était qui était nécessaire, disons, depuis l'arrêt fameux Eric contre Lola. Ça fait presque 10 ans maintenant où la Cour suprême a invité le gouvernement québécois à changer la loi concernant les conjoints de fait, les protections qui sont offertes au niveau non seulement des actifs des conjoints de fait, mais peut-être les obligations alimentaires également. Et ce que je peux vous dire avec le projet de loi qui a été proposé hier par le ministre, c'est que oui, on a, à partir du 29 juin 2025, des nouvelles protections pour des conjoints de fait qui ont des enfants ensemble. Donc, c'est très important de noter. Cette protection s'applique uniquement dans les situations où les conjoints de fait ont des enfants ensemble. Donc, les conjoints de fait qui n'ont pas d'enfants n'ont pas les mêmes protections prévues par cette loi. Et ce que je peux dire, oui, il y a des similarités entre les biens qui sont protégés pour les conjoints de fait et les gens qui sont mariés. Mais ils ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Donc, juste pour vous donner comme un petit résumé, ce projet de loi va instituer ce qui s'appelle un patrimoine d'union parentale qui vient protéger la résidence familiale, les véhicules de la famille, ainsi que les meubles qui garnissent la résidence familiale. Donc, il n'y a pas, comme des gens mariés, aussi un quatrième type d'actifs, donc les REER et les fonds de pension. Ça ne protège pas, selon le projet de loi qu'on a présentement, cette partie. Et il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas d'obligation alimentaire qui est imposée entre les conjoints de fait par rapport à cette loi. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes choses comme des gens mariés. Donc, il y a quand même des choses qui sont différentes. Mais au moins, on a un pas dans la bonne direction, disons.
Oui, absolument. Et vraiment? Ça touche toutefois que les unions avec des enfants là, qui seront nés après la date d'entrée en vigueur en 2025. Là. Donc, c'est pas rétroactif, là, si on veut.
Non, ce n'est pas rétroactif, exactement. Donc, c'est seulement les conjoints de fait qui ont eu des enfants après le 29 juin 2025. Et c'est aussi important de noter que ce n'est pas d'ordre public comme le patrimoine familial pour des gens mariés, qui veut dire que ces conjointes-là, même après le 29 juin 2025, peuvent signer un contrat, un acte notarié qui renonce au partage prévu par la loi.
OK. Bon. Et les couples non mariés ayant déjà des enfants là, au moment de l'adoption de la, voie, oui. De la loi, pardon, est-ce que c'est vrai qu'ils pourraient faire une demande en remplissant un formulaire simplifié là, pour pouvoir accéder à ça?
Bien, premièrement, les conjoints de fait présentement ont déjà le droit de signer des contrats de cohabitation, par exemple, qui peuvent prévoir un petit peu n'importe quoi. Donc, c'est sûr qu'ils ont le droit de signer quelque chose qui vient protéger les mêmes éléments protégés par la loi, mais il n'y a rien de spécifique, selon ma compréhension de la loi, qui prévoit qu'ils peuvent faire comme un opt-in de ce projet de loi-là.
Okay. OK. Très intéressant, en tout cas. Enfin, vraiment. On va de l'avant avec
c'est
ça.
De l'espoir.
Vraiment. Donc, on va tout de suite aller dans le sujet principal de notre émission de ce soir, qui est les cas typiques de mauvaise séparation nécessitant l'aide à la fois d'un avocat en droit familial et d'un détective privé. Parce qu'on sait, lors de séparation, parfois ça peut mal se passer. Hein? Finalement, il y a de l'aliénation parentale, des menaces. Bon, ça se passe pas bien. Mais je me demandais dans quelle situation est-ce qu'on peut... Ou est-ce que les gens font appel à vos services, aux détectives privés et à l'avocat, finalement, en droit familial? L'avocat en droit familial, je me dis, bon, peut-être dans les cas de médiation qui ne tournent pas bien ou des trucs comme ça, mais détective privé, Jen, dans quel cas est-ce que, par exemple, tu as à intervenir?
Dans plusieurs cas, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était bien de parler de ça justement ce soir avec les gens,
oui.
Parce qu'on fait pas juste de l'infidélité, c'est une grosse partie de notre travail que les gens ne connaissent pas qu'on fait, et en collaboration avec les avocats.
Vous complétez.
Exactement, exactement. En fait, les avocats, si Maître Mancuso, vous m'arrêtez, hein, si oui. Vous voyez que vous n'êtes pas en accord, en fait, les avocats, eux, vont s'occuper un peu du volet plus au niveau des lois. Les jugements de la cour, tenter de mettre des conditions de garde. Nous, on va être en palier pour vérifier, exemple, si les jugements sont respectés, les conditions de garde sont respectées. Et c'est sûr que ça va affecter des catégories, justement, typiques de situations, ce que les gens vont être plus problématiques.
Ça, c'est un des deux conjoints qui t'engage, toi, Jen, comme détective privé, c'est ça?
Ça peut être les conjoints ou aussi les avocats.
Ah oui?
Oui.
À l'insu des parents.
Des parents...
Ben, à l'insu des gens là, qui sont séparés, finalement. Là.
Ben, en fait, ça va être les personnes qui sont en séparation.
Ouais.
Exemple, l'ex qui est problématique, puis oui. Qui veut vérifier, exemple, s'il respecte les conditions de garde, si oui. Aussi le jugement qui a été mis en fait en application avec l'avocat en droit de la famille est respecté également. Il va y avoir aussi un volet qu'on va aider. Toutes les choses qui sont cachées, qui sont difficiles pour les avocats d'avoir. Exemple, des revenus qui sont cachés, le travail au noir.
Mm-hmm.
Un bon délinquant qui se faufile là, dans la société. Là. Ça, ouais. Ça vient compliqué. Là. Puis c'est là qu'on
oui.
Entre en action, justement.
On voit parfois même, j'ai déjà vu, OK, mais vu, entendu plutôt, là, des gens, là, des connaissances, qui ont carrément cessé de travailler pour ne
oh,
pas
ouais.
Verser de pension alimentaire. Est-ce que vous voyez ça souvent?
Oui, hein?
c'est épouvantable.
C'est quelque chose.
Oui,
on en voit beaucoup. Oui, c'est décourageant.
C'est ça. C'est quelque chose, malheureusement, qu'on voit assez souvent. Mm. Et des gens qui pensent qu'ils sont très intelligents de pouvoir se soustraire de leurs obligations alimentaires, mais on est chanceux de non seulement collaborer avec les enquêteurs privés, mais avoir des outils à nos fins pour pouvoir trouver ces revenus-là et imputer des revenus à ces parents-là pour faire respecter les obligations alimentaires.
Dans une séparation qui se passe bien, là, mettons que tout va bien, là.
Oui.
Comment est-ce que ça se passe, en fait? Moi, personnellement, là, on est allé en médiation. Hein, on a le droit à 5 séances gratuites, si je ne me trompe, de médiation. Donc, oui. Pour des parents qui peuvent bien s'entendre, ça peut être une belle voie à utiliser pour que
oui,
ça se passe bien.
Oui.
Mais bon, quand ça se passe bien, tout ça, ce serait quoi en général l'entente la plus simple? Et est-ce que c'est selon au prorata du salaire de l'autre, on verse une pension? Ou est-ce que vous allez au rétroactif de qui a payé plus dans les dernières années et tout? Est-ce que vous allez jusque-là ou...
Mais est-ce que vous parlez principalement de la pension alimentaire
oui.
pour les enfants?
Oui, exact.
Oui, mais la pension alimentaire pour enfants, c'est fixé par des règlements. C'est assez simple à calculer. Donc, on prend les revenus des deux parties. Donc, c'est les deux parents qui contribuent à la pension alimentaire en tant que telle. Et ça va en fonction des modalités de garde des enfants également. Donc, disons qu'on est en garde partagée et les revenus des parties sont exactement le même. Bien, il n'y aura pas de pension alimentaire à payer parce qu'on présume que les deux parents vont évidemment contribuer aux besoins des enfants de façon égale.
Okay? Okay.
Il y a aussi ce que tu appelles les frais particuliers qui s'ajoutent à la pension alimentaire de base. Donc,
oui.
on peut parler.
La dentition, les cours spéciaux et tout ça.
C'est ça, exactement. Et si on est dans une situation où une partie à la garde et l'autre des droits d'accès, par exemple, encore une fois, on prend les revenus des deux parties, on indique c'est quoi le nombre de jours passés avec les deux parents. Et le formulaire va nous donner c'est quoi la contribution à payer pour les parents. On fait le pourcentage de cette contribution de base selon les revenus des parents et ça nous donne un montant annuel à payer qu'on fait en tranche mensuelle ou aux deux semaines, dépendamment de la situation des parents.
OK. Et dans quel cas est-ce qu'on voit ça, une pension alimentaire versée à l'ex-conjoint?
Bien, c'est sûr, c'est uniquement dans des situations de mariage. Donc, ce n'est pas prévu entre les conjoints de fait. Et cette pension alimentaire entre époux se fait en fonction des besoins et les moyens des parties. Donc, évidemment, je parle très généralement. Il y a des critères plus spécifiques. Mais on essaye le plus que possible de maintenir le même niveau de vie que pendant le mariage. Donc, si, par exemple, les deux parties travaillaient à temps plein et les revenus sont assez similaires, il n'y a pas nécessairement de besoin pour une pension alimentaire dans ces cas-là. Donc, les dossiers de pension alimentaire entre époux se réservent plus quand il y a quand même un écart important entre les moyens des parties, généralement.
Et chez les personnes qui réussissent à obtenir une pension alimentaire, est-ce qu'il y a des moyens de contourner ça? Est-ce que la plupart du temps, les gens qui doivent payer une pension à leur conjoint ou conjointe essaient de la contourner d'une façon ou d'une autre?
Ils peuvent. C'est certainement quelque chose qu'on voit. Des fois, il y a des personnes qui se cachent derrière des compagnies, des fiducies, de dire qu'ils ne sont pas capables ou aptes à travailler. Mais c'est là où on a besoin non seulement des outils disponibles aux avocats, donc par exemple la possibilité d'imputer un revenu à ces parents-là qui tentent de cacher leur revenu, mais on tente de collaborer avec des enquêteurs privés ou envoyer ce qui s'appelle des citations à comparaître à différents institutions financières ou à des compagnies pour essayer de déterminer c'est quoi les vrais revenus de ces parties-là.
Très intéressant.
Oui.
Écoutez, on a 5 cas typiques, en fait, qui nécessitent votre aide de détective privé et d'avocat en droit de la famille. Mais je pense qu'on va aller à la pause avant d'entamer ce sujet-là pour pouvoir l'entamer d'une shot, comme on dit. Donc, restez des nôtres, puisqu'au retour de la pause, on va enchaîner avec les 5 cas typiques nécessitant l'aide de l'avocat en droit de la famille et de la détective privé. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
Vous êtes de retour avec La Sexploratrice Mel et Max. Et ce soir, on est en compagnie de notre collaboratrice mensuelle, Jennifer Gaudreau, détective privée, qui nous a présenté ce soir Maître Fabrizio Mancuso, qui est un avocat en droit de la famille pour le cabinet Davici Avocat, ayant un parcours assez impressionnant. Maître Mancuso est diplômé de l'Université McGill avec des résultats académiques le plaçant dans le top 15% de son groupe. Il a par la suite pratiqué avec des sommités en droit de la famille et durant sa carrière, Maître Mancuso a notamment représenté des clients devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, la Cour supérieure ainsi que la Cour d'appel. Et Maître Mancuso, vous siégez à titre de président au sein du comité de liaison avec la Cour supérieure en matière familiale.
Merci pour l'invitation.
C'est vraiment, vraiment, vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, Jen, pour la belle rencontre ce soir.
Là,
vous avez
plaisir.
Répondu à nos questions. C'est un sujet qu'on n'avait pas le choix d'aborder avec ce qui est sorti dans les médias, évidemment. Mais là, on va tout de suite aller du côté du sujet principal, finalement, ce soir, en fait, c'est que il y a des gens qui font appel à vos services en tant que détective privé et avocat en droit familial, et il y aurait vraiment des cas typiques qui nécessitent votre aide. Il y en aurait 5. Tu m'en as énuméré 5, Jennifer, les pervers narcissiques, victimes de violences conjugales, les délinquants chroniques habituels et aliénation parentale, et ceux qui ont des problèmes de toxicomanie et santé mentale. C'est bien ça?
Ça regroupe, effectivement.
À peu près, parfait. Donc, pouvez-vous nous donner un cas typique auquel vous avez eu affaire ou dans quel contexte est-ce qu'on fait affaire avec vous, finalement?
Bien, en fait, moi, je pourrais dire que lorsqu'on tente la médiation, et puis que le partenaire veut vraiment qu'il y ait une entente, mais que l'autre personne ne respecte pas les ententes, en fait, ne veut pas faire son bout de chemin. Et là, on entre, en fait, avec des comportements qui peuvent amener un certain danger pour le partenaire ou les enfants. Ou il y a aussi une situation d'illégalité qu'on n'est pas capable d'établir. C'est là qu'on entre en jeu. Et j'avais un peu donné ces catégories-là parce que je trouvais, là, en fait, que ça résumait vraiment quand même totalement tout ce qu'on peut voir d'amalgame là, dans nos dossiers respectivement. Un dossier typique qu'on a, puis qu'on a le plus souvent, en fait, c'est certain, c'est ceux qui vont cacher leurs revenus. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Mélanie, lorsqu'il va venir le temps d'un partage de pension alimentaire, tout d'un coup, la personne ne travaille plus. Et puis là, ben, la partenaire et l'avocat aussi au dossier se rend compte que il y a en fait des faits qu'on voit qui pourraient faire douter que la personne travaille. Mais c'est du travail au noir. C'est des revenus qui vont être cachés. Donc là, à ce moment-là, les détectives privés vont rentrer en jeu avec différents types d'enquêtes qui peuvent être soit un client mystère, si la personne a une entreprise, de la surveillance. La surveillance pour établir quand même un bon topo de la semaine, pas juste une ou deux journées. On veut savoir la personne, en fait, elle travaille combien d'heures par semaine, ça ressemble à quoi aussi son roulement, parce que souvent, ils vont déclarer, exemple, je dis comme ça, là, un 10 000. Mais finalement, lorsqu'on arrive sur place, on se rend compte qu'il y a un Audi qui a un gros char, il part en voyage, il est habillé avec du Gucci, il s'en va au restaurant, ça fonctionne pas. Mm-hmm. Donc là, on va tout un peu éplucher pour dire, coudonc, finalement, cette personne-là ne travaille pas juste une journée, mais en la suivant, on se rend compte que c'est 5 jours semaine, puis il y a plusieurs clients qu'on voit passer. Puis on tente souvent, là, des fois, avec des clients mystères, là, un peu d'établir c'est quoi le taux horaire. En fait, on essaie d'avoir le plus de questions possibles pour savoir un peu les revenus d'argent.
Ces gens-là mettent justement les voitures et tout au nom de d'autres personnes ou au nom de compagnies, dans le fond?
Exactement.
Ah.
Exactement.
Mais ce que tu nous décris, ça me semble aussi être le portrait de bon nombre de criminels. Parce qu'à proprement dit, travailler au noir, c'est criminel, c'est de la fraude, mais tu décris aussi le portrait de gens qui travaillent, par exemple,
plusieurs...
qui pourraient travailler dans le crime organisé.
On a plusieurs types de criminels, mais oui, ça peut être...
En fait, c'est criminel, ça peut être...
de le faire, mais il y a quand même plusieurs personnes qu'on peut penser aujourd'hui qui font ces petites passe-passe-là, malheureusement.
Bien, ça pourrait être quelqu'un, notamment, qui a une entreprise et qui se verse juste pas de salaire. Est-ce qu'à ce moment-là, ils peuvent remonter aux revenus de l'entreprise ou...
Là, en fait, il faut y aller vraiment. Il faut étoffer le dossier. Oui, c'est du cas par cas. L'avocat, lui, va tenter de son côté d'avoir différentes informations. Nous, ce que l'avocat sera pas en mesure de faire, c'est là qu'on vient en ligne de compte pour monter vraiment un dossier solide de ce qu'on peut dire, tous les gens problématiques qu'on n'est pas capable d'avoir d'entente.
Mais la question demeure, une fois que vous décelez qu'il y a des revenus qui sont faits au noir... Comment vous faites pour en prendre possession?
Ça, c'est peut-être Maître Mancuso qui pourrait répondre. Je vous laisse répondre à cette question.
Mais il y a deux choses, je pense, qu'il faut comprendre dans ces types de situations-là. Donc, c'est pas toujours une question de travail au noir non plus. Il y a des personnes qui ont leur propre entreprise, qui passent toutes par la compagnie, ils laissent les montants dans la compagnie. C'est tout à fait légal. C'est des véhicules fiscaux au fin de compte et il n'y a rien d'illégal qu'ils font. Cependant, pour les fins de pension alimentaire ou exécution de jugement, Le tribunal est très clair qu'il faut avoir les moyens, la vraie capacité de payer de ces parents-là. Donc, c'est à nous, par la suite, avec les enquêteurs, avec l'information qu'on va recevoir, d'aller chercher les informations nécessaires, par exemple, les bénéfices non répartis dans une compagnie pour essayer de trouver, OK, est-ce qu'il y a un montant qui n'est pas versé directement à ce parent-là pour des fins fiscales qui doivent être pris en compte? Donc, ça, c'est un côté du médaille. De l'autre côté, sur les revenus au noir, si on a, par exemple, des indices dans lesquels on a de l'argent comptant qui rentre qui sont dans les mains de ces parents-là après une enquête, on peut prendre le montant. Donc, disons qu'ils ont fait plusieurs semaines avec des clients mystères, par exemple, et on voit que régulièrement, ils vont recevoir 1 000 comptant par semaine, comme exemple. Mais ça, on va le multiplier par 52 semaines. On va évidemment majorer ce montant-là parce que c'est de l'argent comptant. On n'a pas payé des impôts sur ce montant-là. Donc, il faut faire l'exercice pour le mettre au brut. Et là, on a le montant maintenant, les vrais revenus de ce parent-là pour pouvoir calculer une pension alimentaire.
Très intéressant.
Oui.
OK.
Puis, il y a un autre volet aussi... qu'on entend souvent, les gens aiment ça, tout ce qui touche les traits pervers narcissiques, les manipulateurs. Ce côté-là également, c'est quelque chose qui peut toucher plusieurs personnes. Et ce qui peut arriver aussi également, on l'a entendu parler, j'en ai parlé justement dans la chronique à un moment donné, les manipulateurs, les pervers narcissiques. Si vous voulez démêler tout ça, là, je vais vous envoyer à ma chronique parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Mais bref, on pourrait dire en fait que c'est les gens qui veulent toujours retirer selon leurs propres besoins et négliger l'autre partenaire. Donc là, il peut y avoir de l'harcèlement qui peut s'installer parce qu'il ne respecte pas les limites de la personne. L'harcèlement, on parle de violence psychologique, on va parler d'intimidation, on va parler de contrôle avec le nouvel partenaire. Donc ça s'en vient. En fait, au niveau de la sécurité aussi du partenaire et des enfants.
Mais oui.
Ça vient compliqué. Puis là, à ce moment-là, c'est nécessaire en fait de faire appel premièrement à l'avocat pour faire des conditions de garde, mettre ça le plus clair possible. Parce que la minute où ce qui va avoir une espèce de zone grise avec des types de personnes comme ça, quand il n'y a pas de jugement ou de conditions de garde, ils vont jouer là-dedans au détriment de l'autre personne. Donc, les avocats...
De l'autre personne et des enfants.
Exactement. Ils vont servir des enfants et tout. Donc, c'est important à ce moment-là... L'avocat va faire, en droit de la famille, va faire les conditions de garde, des jugements si nécessaire, pour justement faire en sorte que tout ça est respecté pour le bien de tout le monde.
Puis là, on ne parle pas de cas nécessitant la présence de la DPJ, là. On est avant ça, là.
On avance ça, mais on peut, tu sais, si on parle de violence psychologique et
d'aliénation parentale.
Bien là, c'est sûr que là, c'est une autre chose. Il faut bien sûr dénoncer aux policiers et s'il doit faire un signalement, on le fait également. Mais n'empêche qu'on peut regrouper un peu à travers toute cette catégorie-là, si on peut dire les manipulateurs et pervers narcissiques, notre aide nécessaire dans ces dossiers-là. Et l'avocat, c'est celui qui va s'occuper plus de peut-être des conditions de garde et du jugement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que tout ça est respecté. Parce que, on le sait, les gens ne changent pas d'une façon miraculeuse. Donc, même s'il va y avoir des conditions bien établies, ça se peut que là-dedans, ils n'y respectent pas. Donc là, nous, à ce moment-là, on vérifie avec nos méthodes d'enquête, voir si c'est fait.
Et admettons que, je suis dans cette situation et que, je doute de l'honnêteté de mon ex-partenaire et tout ça et que je veux engager, en fait, que je crois que les services de détective privé est nécessaire. Est-ce que c'est moi qui engage le détective ou c'est le gouvernement? Comment ça fonctionne? À partir de quand? Qui décide que c'est le temps d'inclure un détective privé et qui te paie finalement? Qui t'engage?
À travers les jugements, les conditions de garde, c'est souvent, ça peut être soit l'avocat ou le client lui-même qui décide qu'on l'aide à travers tout ça. Donc, c'est un ou l'autre, mais non, il n'a pas encore de subvention gouvernementale. En fait, c'est souvent quelque chose que j'ai réfléchi d'ailleurs. Pourquoi il n'en a pas? Parce que souvent, on le sait, là, les gens, ils peuvent avoir plein de sous de part et d'autre, mais pourtant, on fait tellement un travail qui est important. Je me demande je me demande encore pourquoi il n'y en a pas.
Ben,
je me
dis vraiment, au même titre, là, la question se pose, pourquoi les frais d'avocat ne sont pas payés, rendus là? Pourquoi il y aurait des subventions? Je ne comprends pas.
Ben, il y a des frais d'avocat qui peuvent être payés, exemple, par l'aide juridique.
L'aide juridique, oui.
Ouais, dans certains cas.
C'est parlant d'aide juridique.
Juridique, mais nous, de notre côté, il n'y a pas encore de
aucune
système.
Aucune aide ni rien de ça?
Non, c'est ça.
Fascinant.
Parlant d'aide juridique, qui est admissible ou non à l'aide juridique, Maître Mancuso?
Bon, les seuils sont disponibles dans les règlements. Regarde, j'en ai pas consulté, ça fait un petit bout, mais de ce que je me souviens, je pense pour des personnes seules, sans enfants, on est à peu près à 38 000, si je m'appelle, ou moins exactement. Ça, c'est sans contribution. Avec contribution, ça peut aller, je crois, jusqu'à 45 000 par année. Et ça, la contribution, c'est entre 100 et 800 si je ne me trompe pas.
OK.
Et si on a des enfants, les seuils augmentent en fonction de nombre d'enfants. Ça peut aller en famille, je crois, jusqu'à 48 ou peut-être 52 000, quelque chose comme ça.
OK. Et dans les... Oui?
Ce n'est pas très haut, disons. Donc, il n'y a pas tant de personnes qui sont admissibles pour l'aide juridique. Et je vous dis, ça cause... une lacune pour des personnes, par exemple, qui dépassent légèrement les seuils de revenus et qui n'ont pas les moyens nécessairement de payer un avocat 250 de l'heure ou plus.
Effectivement. Et dans les cas de violence conjugale, par exemple, ou peu importe le cas, là, à partir du moment où quelqu'un, Jen, t'engage pour faire la filature ou de l'écoute électronique, des trucs comme ça, est-ce que c'est valide en cours, ça? Si c'est fait à l'insu de l'autre personne?
À l'insu de l'autre personne, non. C'est illégal. On ne peut pas tout faire sans l'autorisation de la personne à exécuter des méthodes de recherche comme ça. Donc, non, c'est pas légal. Et on peut même perdre notre permis, d'ailleurs. Donc, l'écoute électronique, tout ce qu'il y a d'écoute électronique, là, c'est non. C'est souvent plus les policiers avec des mandats, vraiment. Et toutes les autorisations, ça s'appelle des mandats. Ils ont toutes sortes de mandats qui vont autoriser ça.
Ça prend un juge qui approuve ça, là.
Exactement. Donc, non, on peut pas faire... On peut pas faire ça. Pour des cas de violence conjugale, ben c'est sûr, j'en ai eu quelques-uns. Je trouve que j'en ai pas assez, selon moi. On en a eu un, justement, là, l'année dernière, qui est extraordinaire. Je fais une petite parenthèse, là. La dame avait de la difficulté, bien sûr, avec la garde et aussi au niveau criminel par la violence conjugale. On est intervenu en même temps, autant civil que au niveau criminel. Ça s'est avéré dans les deux cas que la personne qui devait attendre sa sentence, qui n'avait pas eu encore sa sentence au niveau criminel, on a trouvé plein de revenus cachés. On l'a appréhendé en train de voler, de ne pas respecter ses conditions de garde. Le package, là, mais vraiment le package, là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose qui est extraordinaire, puis je me dis qu'on n'est vraiment pas assez appelé à le faire. C'est qu'on est venu voir, justement, si cette personne-là, dans la vraie vie, a compris, puis elle a un risque de récidive, puis aussi déterminer la sentence par rapport à cet individu-là qui représente un danger, là, pour la partenaire, les enfants et la société en général. Donc, notre travail a fait, en fait, qui était reçu à court parce qu'on l'a fait de la manière qu'il le faut. Toutes nos méthodes de recherche doivent être de façon légale pour être recevable en cours, ce qui n'est pas facile. Ça nécessite beaucoup de connaissances, mais un coup qu'on a connu tout ça, les résultats que ça a fait, c'est extraordinaire. En fait, la cliente a pu avoir une sentence juste. On a aidé l'avocat criminel ainsi que l'avocat au civil, qui a été, extraordinaire à travers tout ça. Parce que c'est ça notre rôle. Nous, on est dans l'ombre. Hein. C'est sûr, les détectives privés sont dans l'ombre, mais dans l'ombre et dans le noir se cachent vraiment
les
choses.
C'est là que tout
s'opère. C'est là que tout se passe. Et c'est là qu'il faut opérer, en fait.
Ouais.
Donc, on peut bien se faufiler comme on veut puis être couleuf comme on veut. Si on appréhende l'individu vraiment dans sa réalité, ça s'en vient très intéressant.
Mais t'as dit le mot « appréhender » lorsque tu avais vu ce client-là particulièrement faire un vol. Ça veut-tu dire que lorsque vous êtes sur le terrain puis vous voyez la personne sur laquelle vous enquêtez faire un crime, vous êtes obligé d'intervenir?
Cas par cas, mais c'est sûr qu'on travaille avec des avocats. Donc là, c'est sûr que là, nous, on va consulter les avocats.
Puis on voit ce qui se passe là-dedans pour éviter
le mur. Exactement. Donc, ils vont tout en fait prendre une réflexion à savoir qu'est-ce qu'on fait, mais la plupart du temps... Oui, c'est dénoncé. C'est dénoncé. Donc, c'est d'une aide extraordinaire, là, surtout avec des gens problématiques. Là, on apporte une aide extraordinaire que les avocats et que tout le monde, en fait, apprécie.
Absolument. Il y a quelque chose d'épouvantable qui se passe souvent lors de séparations. Je trouve ça inhumain, en fait, mais c'est l'aliénation parentale. Mm-hmm. Comment venir jouer dans la tête des enfants pour les monter contre l'autre parent? C'est épouvantable. Ouais. Les enfants ne devraient pas avoir à vivre ça, mais ça se fait. Et je sais que vous avez plusieurs cas auxquels vous faites face. Est-ce que tu en aurais un en particulier, peut-être, à nous présenter ou quelque chose
ça,
à nous raconter
par rapport à ça? Maître Mancuso là-dessus, parce que l'aliénation parentale, c'est pas quelque chose de facile à identifier.
Est-ce que ça peut être considéré comme étant criminel?
C'est une bonne question, pas encore, hein, si je me trompe, c'est ça.
Non, c'est pas un acte criminel. C'est sûr que c'est un sujet énorme et c'est quelque chose que les gens doivent comprendre, qu'à la cour, le tribunal, c'est quelque chose qui doit être prouvé par expertise, donc par preuve d'expertise. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut démontrer uniquement avec les faits. Parce qu'il y a une différence énorme entre l'aliénation parentale et ce qu'on appelle du comportement aliénant. Donc, des fois, de dire des choses, mais est-ce que vous voulez vraiment aller avec votre père cette fin de semaine ou votre mère cette fin de semaine? Ça, c'est pas de l'aliénation parentale, c'est peut-être du comportement aliénant. Pour arriver à une aliénation parentale, il y a des critères qui sont même flous. Donc, il n'y a pas vraiment de définition exacte d'aliénation parentale qui est reconnue par le tribunal. C'est du cas par cas. Et malheureusement, le tribunal est mal outillé présentement pour cette question-là parce que je vous donne un exemple. Un enfant qui a peut-être 14-15 ans et la loi est très claire que leur désir est déterminant. Évidemment, il y a des exceptions si leur désir, c'est de manger des bonbons chaque jour, mais on ne peut pas nécessairement accepter ça. Mais par rapport à la garde, c'est déterminant. Donc, on a vu quand même des dossiers dans lesquels c'est clair qu'il y a eu d'aliénation parentale. C'est clair la raison pour laquelle ces adolescents-là souhaitent rester avec un de leurs parents et pas voir l'autre, c'est à cause du comportement du parent aliénant. Mais le problème, c'est que les tribunaux sont liés. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tirer ces adolescents par les cheveux puis les amener à l'autre parent? Peut-être éventuellement, ça devrait être le cas, mais malheureusement, maintenant, il n'y a pas grand outil pour le faire. Donc, mais je peux au moins dire que j'en ai eu des dossiers comme ça dans lesquels l'un des enfants qui est adolescent ne souhaite pas du tout voir le parent que je représente.
Ça, c'est très triste.
Cependant, des fois, la stratégie à prendre dans ces types de dossiers-là, c'est de laisser le temps un petit peu s'écouler. Et je peux vous dire que dans un de mes dossiers, l'enfant a réalisé qu'elle était aliénée au fin de compte. En maturant, elle a compris que c'était le plan de match de la mère ou dans cette circonstance-là de faire ça tout au long. Elle avait une belle relation avec son père avant la séparation des parties. Et elle est retournée, et je vous dis maintenant qu'elle habite avec son père présentement. Donc, ça peut se réparer avec du temps. Donc, des fois, l'outil, c'est vraiment d'écouter l'adolescent, lui donner un voix dans tout ça, et voir qu'à un moment donné, si le parent est vraiment en bonne relation avec l'enfant, ça va se réparer.
Pour les gens qui voudraient avoir de l'information concernant l'aliénation parentale ou des ressources ou des trousses juridiques, des trucs comme ça, là, il y a le Carrefour Aliénation Parentale Québec que vous pouvez retrouver là sur le web par le site aliénationparentale.ca. Donc, n'hésitez pas à consulter ce site-là. Je pense que ça peut être bien là, pour ceux et celles qui se croient victimes, finalement, ou que si vous doutez du fait que vos enfants sont peut-être aliénés. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable, ça.
C'est un excellent outil. Je le recommande toujours à mes clients. J'utilise ce site web pour essayer d'identifier des cas d'aliénation parentale.
Okay.
Mais il faut aussi être très prudent parce que on voit souvent la notion d'aliénation parentale utilisée comme une arme également. Et je vous explique, il y a récemment une lettre qui a été signée par l'Association nationale des femmes en droit en date du 23 janvier 2024, dans laquelle on voit que les femmes sont normalement les personnes visées par des allégations d'aliénation parentale, et notamment dans un contexte de violence familiale. Et il faut faire très attention dans des dossiers comme ça, parce que les allégations de violence familiale sont rarement prises au sérieux dans le cas où l'aliénation parentale est alléguée.
Ben justement, lorsque vous soupçonnez qu'il y a aliénation parentale dans un dossier, lorsqu'un client se présente chez vous et qu'il y a présumément ça selon ce que vous décelez de la situation, c'est quoi le ABC? Comment vous fonctionnez à partir de là?
Donc moi, je demande toujours à mes clients de garder un journal des comportements aliénants. Donc encore, j'utilise toujours ce terme-là avec mes clients pour faire la différence. Parce qu'un enfant qui retourne toujours chez vous n'est pas un enfant qui est aliéné. Un enfant aliéné ne souhaite pas du tout voir l'autre parent. C'est ça, c'est une condition que tout le monde en connaît dans ce monde-là. Donc un enfant qui dit que maman ou papa dit telle et telle affaire contre l'autre, c'est du comportement aliénant, mais pas nécessairement de l'aliénation parentale. Donc je demande toujours à mes clients de garder un journal de ces types de comportements-là. Je propose toujours des thérapies familiales dans des dossiers où un des enfants peut-être ne souhaite ou souhaite moins voir un des parents pour connaître le pourquoi. Et on a toujours la possibilité de demander une expertise psychosociale ou psycholégale dans laquelle on demande un psychologue à rencontrer les parties avec les enfants pour nous donner un portrait de la situation et nous donner des recommandations par rapport aux modalités de garde et la possibilité d'une aliénation parentale.
J'ai une question pour vous, Maître Mancuso. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu du jugement l'année passée dont un père a dû payer là, une somme de 30 000 $ là, avec le juge, le juge Poisson? Est-ce que ça vous est arrivé, vous, dans votre pratique de...
30 000 $ il a été accusé d'aliénation parentale?
Oui. Il est accusé d'aliénation parentale. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre pratique d'avoir justement un cas typique avec un remboursement quelconque?
Pas nécessairement dans ce contexte-là, dans mon expérience, mais on a déjà eu des dossiers dans lesquels on a un comportement répréhensible d'un autre parti, dans lequel on peut recevoir des dommages intérêts ou ce qui s'appelle, dépendamment des circonstances, une provision pour frais dans laquelle on peut compenser les honoraires encourus pour un comportement répréhensible de l'autre partie dans un dossier. Je vous donne un exemple, des personnes qui essayent de cacher des revenus ou des personnes qui, de façon répétée, empêchent les accès entre les enfants et l'autre parent pour une raison injustifiée. Donc oui, c'est quelque chose qui est possible et le jugement de Poisson, on l'utilise de plus en plus pour essayer de voir des situations qu'on peut utiliser cet outil-là pour garantir les droits de nos clients.
Super. Mais là, dans ce cas-ci, c'était 30 000 $ de dédommagement, mais pour ce qui est de la garde de l'enfant, est-ce qu'il y a un suivi qui a été fait par la suite avec des experts ou des psychologues ou quelconque pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'aliénation malgré le jugement, ou on fait juste se dire ben il doit avoir compris la leçon, puis...
Je ne sais pas ce qui est arrivé par la suite, malheureusement.
Moi non plus, j'essaie de lire, je pense que je le vois pas, non.
OK.
Dans nos cas, regarde, c'est une question de faire des suivis avec le client pour voir qu'est-ce qui se passe dans le dossier. Bien, éventuellement, je crois que le seul outil possible, c'est un renversement de garde dans des situations comme ça où on voit des aliénations parentales qui ne cessent pas. Le seul outil qui est disponible au tribunal, c'est de renverser la garde et espérant être dans une situation dans laquelle on peut envisager ce type de mesure et on n'a pas d'adolescent qui va juste refuser carrément de se rendre à l'autre parent.
Lorsque la Cour entend des causes d'aliénation parentale ou de séparation, à proprement dit, dans les règles de l'art, diriez-vous que le système judiciaire dans lequel nous évoluons aujourd'hui favorise encore la femme plus que l'homme ou on est rendu à une certaine parité?
Dans ma pratique, je ne vois pas ça personnellement. Je pense que les tribunaux, évidemment, les juges sont humains, ils ont tous leurs perspectives, évidemment, mais à mon avis, dans ma pratique, je n'ai pas vu cette compréhension-là. Les deux parents peuvent être dans le vie des enfants. C'est sûr que quand les enfants sont tout jeunes, il y a des contextes, par exemple, d'allaitement qui doivent être respectés en début de vie. Mais après ça, on voit de plus en plus, en fait, des dossiers qui imposent ou qui ordonnent des gardes partagées, même quand les enfants sont très jeunes, genre 8 mois, 9 mois, on a déjà vu à notre bureau. Donc, je ne vois pas personnellement, en tout cas dans ma pratique, cette réalité-là.
C'est déjà bientôt la fin de notre belle entrevue avec vous, Maître Mancuso et Jen Godreau, détective privé. J'ai envie de rementionner finalement où est-ce qu'on peut vous joindre si on veut opter là, pour vos services. Donc, Jennifer, détective privé, comment est-ce qu'on peut te joindre?
Soit par courriel, vous pouvez aller voir mon site internet qui est jgdétectiveprivé.com. Vous pouvez me téléphoner 418-809-6229, mon numéro de téléphone à Montréal, ou m'envoyer un courriel. Prenez la peine d'aller voir un petit peu tous les services. J'ai d'ailleurs quelques nouveautés qu'à un moment donné, je vais me garder. Je vous dis pas tout ça, la surprise, là.
Tu fais même de la cybersécurité.
Ah, je fais toutes sortes d'affaires.
Écoute, t'es dans plusieurs niveaux. Infidélité, de la filature, oui. Pour le travail. Tu fais même des enquêtes pour les employeurs. C'est au-delà que de la relation et l'humain, là, à proprement
oui,
dit.
Oui, je tente, du moins, je suis en train d'élargir, si on peut dire, le sphère d'investigation privée.
D'accord.
Donc, j'ai introduit toujours des services et des services. Donc, j'en ai un, d'ailleurs, que je vais prendre la peine de parler par surprise, je vous le dis pas, là.
Super!
Oui, donc, si ça, vous pouvez me joindre sur ces coordonnées-là, ça va me faire plaisir de voir si on peut vous aider, bien évidemment.
Excellent. Et Maître Mancuso, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous si on souhaite opter pour vos services?
Oui, donc j'invite tout le monde à consulter notre site web devichyavocat avec un S.com, donc devichyavocat avec un S.com. Nous avons des bureaux à travers du Québec, donc Montréal, Québec, Trois-Rivières. On a déjà pratiqué à Chicoutimi également, donc on a tous les bureaux sur le site web et on pratique en droit de la famille, protection de la jeunesse, le criminel et le civil. Et si des personnes souhaitent me contacter directement, il y a mon numéro de bureau 514-600-4890 et vous pouvez quand même booker une consultation directement sur notre site web également. Donc, on est très équipés techno, en visioconférence, téléphone, etc.
C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté cette belle invitation. Merci Jennifer, pour la belle découverte.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Un gros merci.
Bonsoir à tous.
Merci, chers auditeurs, d'avoir été en si grand nombre à l'écoute. Merci, Max.
Merci à toi.
Mon cher collègue d'amour. Et c'était une autre belle soirée en compagnie de la sexploratrice Mel, Max, Jen Godreau et Maître Mancuso sur les ondes de choix 98.1 Radio X, la sexploratrice.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.